Je vous invite à vous asseoir et à ouvrir avec moi cette feuille qui contient une page de la Bible. Une histoire qui s'est passée des centaines d'années avant le Christ, dans une terre de captivité, Babylone, l'Irak, l'Iran, où le peuple juif a été déporté. Et où un homme bien connu sous le nom de Nebuchadnezzar avait élevé une grande statue pour dire « ça me représente ». Et il a imposé quelque chose qui va nous servir aujourd'hui à parler des temps difficiles. Je fais la lecture. C'est la parole de Nebuchadnezzar, on l'appelle aussi ainsi. Vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient trois déportés juifs, répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi fut effrayé et il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi « Certainement, au roi !» Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Amen. » L'apôtre Paul, quelques jours, quelques semaines avant de mourir, en prison à Rome, écrivait sa dernière lettre, sa dernière épître pour Timothée. Et il disait, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Pourtant, il vivait une époque très difficile. Alors je m'attendais à ce que Paul nous dise quoi ? Je m'attendais à ce qu'il nous parle de Tchernobyl, des raz-de-marée, des épidémies, des famines, des catastrophes. Paul dit, il y aura des temps difficiles, car, voici la réponse, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, rebelles à leurs parents, ingrats, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la foi, eh bien voilà, mes amis, la cause première des temps difficiles que le monde a toujours connus et que nous connaissons particulièrement aujourd'hui. La cause, elle est dans le cœur de l'homme. Jésus disait, c'est de notre cœur que viennent les débauches, les mensonges, les meurtres. Jésus disait, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et la charité, ça fait partie du cœur. Nous avons là, sans avoir fait de hautes études en économie, nous avons là une explication de la crise actuelle, qui touche tous les domaines de la vie. Financier, bien sûr, on l'entend tous les jours, mais aussi famille, éducation, environnement, religion, espérance de vie. Tout est bouleversé. Mais dans ces temps difficiles, mes amis, il y a une destruction du sens de la vie. On ne sait plus où nous allons. Le sens, ça veut dire aussi la direction de la vie. Il y a dans cette crise une menace sur l'existence humaine. On se demande tous ce que nos enfants deviendront. Le prophète Ésaïe disait « Les épines poussent dans les palais ». Ça veut dire, même là où ça pourrait aller très bien, il y a des épines. Il y a des épines dans le cœur de l'homme, il y a des épines dans les maisons, il y a des épines dans les couples, partout. Nous voyons donc que la science n'a pas donné la sécurité prévue. La science n'a pas donné la prospérité et le bonheur attendu. Depuis 1918, des esprits intelligents parlent, écrivent et disent qu'ils doutent que l'intelligence humaine pourra résister à la destruction de toute l'humanité. C'est pas rassurant. Paul Valéry disait que nous sommes maintenant sûrs que nous sommes mortels. Les civilisations, les familles, tout est mortel. Dans les derniers jours, dit l'apôtre Paul, ça veut dire après des milliers d'années de civilisation. Nous pensions trouver un paradis sur terre. Je pense souvent à mes grands-parents que j'aimais beaucoup. Et je me dis, s'ils revenaient aujourd'hui, eux qui ont connu deux guerres, ils nous diraient peut-être, nous pensions que vous étiez dans le paradis et que tout était magnifique. Eh bien non, tout va très mal. Je reprends le prophète Ésaïe, dans les rues on crie, prophète Ésaïe, toute réjouissance a disparu, la gaieté a été chassée du pays. La gaieté a été chassée de l'Europe, de notre pays. Les pensées sont désorientées. Il y a un petit oiseau magnifique, la sterne de mer, l'hirondelle de mer, capable de faire d'un seul trait 4000 kilomètres sur l'océan en se repérant avec le soleil. Elle corrige constamment son cap, mais elle va droit au but. Magnifique, l'hirondelle de mer. Et nous, on a perdu le cap. On ne sait plus où nous en sommes. Les choses irrégulières sont devenues normales, banales. Les choses régulières sont devenues impossibles. On a perdu le cap. Dans les Lamentations de Jérémie, dans la Bible, Jérémie dit « Quoi ? L'or a perdu son éclat. » Cela veut dire ce qui doit naturellement briller n'a plus d'éclat. Je pense à l'amour. Je pense à la famille. Je pense aux joies de la terre. Tout est assombri. Tout a perdu de son éclat. La cupidité, l'avarice, l'amour de l'argent sont devenus normaux, politiquement corrects. Ça fait partie de la civilisation. Mais c'est une des causes du déclin aujourd'hui, pas seulement des banques, mais de l'être humain. Nous sommes dans une crise de civilisation, une crise de l'humanité, une crise de la vie, de notre vie. On récolte aujourd'hui une étrange tempête. J'ai beaucoup apprécié le roman de Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours. Et vous savez l'histoire du bateau qui doit arriver vite en Amérique. Et voilà que le bateau, il n'a plus de charbon. À l'époque, c'était encore le charbon, bateau à vapeur. Et pour gagner un peu de vitesse, les matelots brûlent dans la chaudière du bateau tout ce qui est bois. Les mâts, les meubles, les tables, tout passe dans la chaudière. Pour gagner une demi-journée. Nous avons démoli la planète, la famille, pour aller plus vite et nous ne savons pas où nous allons. Il y a beaucoup de choses à dire sur la crise humaine qui est au-delà de ce que les banques nous crient. Ézéchiel disait, nous avons troublé l'eau limpide que Dieu nous a donnée. Nous avons troublé le pâturage que Dieu nous a donné. Nous avons tordu la vie que Dieu nous a donnée droite. Nous avons donc cru, mes amis, que la technique nous changerait la vie. Nous avons tout amélioré autour de nous. Nous avons rendu les choses presse-bouton faciles. Mais à l'intérieur de nous, nous avons perdu de belles facultés. Nous nous sommes dégradés dans notre relation avec le prochain, avec la nature, avec Dieu. C'est là qu'est le péril. Je ne suis pas prophète, je ne fais que de lire la Bible. Le péril, le commencement des temps difficiles, il est dans notre cœur, à chacun. Plus responsable, bien sûr, plus on va haut dans la hiérarchie, bien sûr. L'apôtre Paul dit que toute la création souffre à cause du péché. Le péché, ce n'est pas la vie privée, personnelle, sans effet. Le péché a troublé la famille, le couple, l'enfance, les générations, la création entière. Soucieux donc de notre bien-être matériel, nous nous sommes perdus sur le sens de la vie et de la mort. Nous sommes envahis de choses insignifiantes. L'invasion de l'insignifiant, petites choses, qui envahissent tout. Et on ne voit plus le chemin, la vérité, la vie. Dieu. Tragique. Les autres générations n'ont pas connu cela à ce point. Nous sommes devenus très individualistes, égoïstes. Je reprends l'apôtre Paul. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, ingrats, cruels. Cela veut dire que les relations sociales vont se décomposer, les relations familiales seront difficiles, les relations conjugales seront périlleuses, tout se dégrade. Mais c'est comme ça depuis le jardin d'Éden, jardin de Dieu, depuis le paradis terrestre, depuis Adam et Ève. Dans le jardin de Dieu, la paternité a été contestée. Adam et Ève ont voulu prendre la place de Dieu. Dieu, depuis 13 milliards d'années, leur avait préparé quelque chose de pas trop mal. Et dès qu'ils arrivent, Adam et Ève, comme ils nous ressemblent, comme on leur ressemble, ils contestent Dieu. Ils veulent devenir comme lui. Paternité contestée. Et fraternité contestée. Dès qu'ils ont eu deux enfants, Abel et Caïn, il y a eu de la jalousie. Pourtant, il y avait de la place. Il y avait de l'espace. Jalousie, et Caïn a tué son frère Abel. Quand la fraternité est absente, la vie ensemble se déshumanise. Se décompose. Je ne sais pas ce que vous pensez. Que pensons-nous maintenant de cette devise française très célèbre qu'on porte très haut sur les frontons des mairies. Liberté, égalité, fraternité. Mais vous savez, s'il n'y a pas la fraternité, il n'y aura pas l'égalité. Parce que chacun sa part, et puis on ne donne pas la part aux autres. Et s'il n'y a pas la fraternité, il n'y aura pas non plus la liberté. Aujourd'hui, on va gratter cette devise, on va l'enlever, ou plutôt on voudrait essayer de la retrouver. L'être humain existe que grâce à sa relation avec Dieu et avec les autres. On a été fait comme ça, on ne peut pas faire autrement. Un être humain seul s'appauvrit, se défait. L'être humain est un être fait pour relation, pour être en relation. Tu aimeras Dieu, ton prochain comme toi-même, sinon tu n'existes pas. Tu meurs. Et nous avons remplacé cette double relation, Dieu et le prochain, par moi, comme Nebuchadnezzar. Moi, ma liberté, mon égalité. Et nous nous sommes laissés envahir par des choses insignifiantes, des petits robots. Je ne vais pas contester le téléphone portable, ça rend quand même bien service. Je ne vais pas contester Internet. Enfin, on est envahi de ces petites bêtes qui ressemblent à des fourmis qui envahissent notre esprit, notre temps, notre espace, notre occupation. Il faut toujours avoir, toujours faire, toujours apprendre, toujours acheter, toujours. Et voilà qu'on arrive, ah bien ça va vite, 90 ans bientôt. Nous voici donc dans une grave crise de sens. Que faut-il faire pour être vraiment heureux ? Jésus disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est catégorique. Chez les anciens Grecs, autrefois, il y a 2000 ans, le mot crise avait un sens qui est différent d'aujourd'hui. Une crise chez les Grecs, ça veut dire, c'est l'heure de faire un choix. Quand je suis à table et qu'il y a le dessert et le fromage, c'est la crise, je fais un choix. Ce n'est pas une grande crise. Je fais un choix. C'était le mot crise. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un choix à faire. Et regardez ces trois amis dont je vous ai raconté l'histoire au début. Regardez-les. Ces trois amis qui vont se retrouver dans un pays étranger devant une statue qui fait 31 mètres de haut. Je ne suis pas un constructeur... Mais on répare seulement une église en ce moment, mais pas des constructeurs. Mais apparemment, d'après les spécialistes, la statue était faite pour tomber. Ils l'ont faite pour qu'elle tombe, parce que ce n'était pas possible. Mais cette statue, elle représente l'avidité de l'homme qui veut prendre la place de Dieu, de l'homme qui devient violent, qui décide du bien, du mal, de la vie, de la mort des autres. Les trois hommes dont on a lu l'histoire, c'est vraiment trois hommes dans les temps difficiles. Tout le monde doit plier le genou devant la statue. Dès qu'on joue de la guitare, de la cornemuse, tout le monde doit se mettre à genoux devant ce faux Dieu. Tout le monde sauf trois. Shadrach, Meshach, Abednego, mais on les appelle Anania, Azaria, Michaël. Et en plus, ce sont trois juifs, trois déportés, trois hommes qui sont objets de la haine. Ils restent debout parce qu'ils sont impressionnés par le Dieu d'Israël, par Dieu qu'ils ont connu depuis leur enfance. Ils restent debout parce qu'ils ont la crainte de Dieu. Et pour eux, il n'y a qu'un seul Dieu. La foi, c'est cela, la foi. Savoir que la vie, elle a une source qui s'appelle Dieu. La vie, elle a une lumière qui s'appelle Dieu. La vie, elle a un sens, elle a une vérité qui s'appelle Jésus-Christ. C'est ça, la foi. La foi, c'est écouter le Seigneur quand on est dans les chemins difficiles pour ne pas perdre le chemin, pour garder nos mains dans ses mains. et pour continuer jusqu'au bout. Colère du roi ? Colère du roi ? Comment trois ? Trois sur des millions, des minorités. Trois sur des millions qui restent debout quand toute la foule est par terre, prosternée. Et il leur dit, mais quel est le Dieu qui pourra vous délivrer de ma main ? Voulant dire, est-ce qu'il y a un Dieu plus fort que moi ? Est-ce qu'il y a un Dieu plus fort que la mort, parce qu'ils sont menacés de mort ? Est-ce qu'il y a un Dieu plus fort que le mal ? Ils sont menacés de la fournaise ardente. Ça ne faisait pas de pli à l'époque. Ou c'était les lions, ou c'était la fournaise, le feu. Vous savez, la foi, ce n'est pas tout réussir dans la vie. La foi, c'est réussir la vie avec Dieu, le passage vers Dieu, réussir le sens de la vie avec Dieu. Et la foi, parfois, ça rencontre des temps de tempête, on l'a chanté avec les jeunes. Et Jésus, d'ailleurs, prie pour que notre foi ne s'éteigne pas dans la tempête. J'ai toujours beaucoup aimé la lampe tempête. Cette petite lampe dans une petite cloche de verre, ça peut souffler, il peut y avoir même des brumes de mer, la flamme ne bouge pas. La foi dans la tempête, Jésus prie pour nous. Et écoutez bien ces trois amis-là, ces trois jeunes qui parlent au roi, Dieu peut nous délivrer. Ils n'ont pas dit que Dieu va le faire. Ils ne savent pas ce que Dieu veut faire. Mais ils savent une chose, c'est que Dieu peut le faire. Ça, la foi. On ne sait pas tout ce qu'il va faire, mais Dieu est amour. Et ils répondent, il nous délivrera de ta main. Peut-être à travers la mort, parce qu'ils appellent la mort une délivrance. Ou peut-être miraculeusement, ils ne savent pas, ils ne savent pas la suite de l'histoire. Nous, nous la savons. Donc on est moins surpris. Ils sont là devant la mort qui les attend, comme ce roi de la Bible qui disait, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. On n'a pas de réponse, on n'a pas de moyens pour répondre à certains troubles qui viennent de nos enfants, de notre mari, de la famille, du travail, on n'a pas de moyens. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Jésus nous a dit, quand ces choses commenceront à arriver, quand vous serez bousculés, perdant le goût de la vie, quand vous serez comme ces trois jeunes gens-là, redressez-vous, levez vos têtes, votre délivrance approche. Ça veut dire, je ne vous oublie pas. Vous n'êtes pas perdus. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Ça, c'est la parole de Jésus. J'aime la foi de ces jeunes gens. J'aime cette foi. J'aime cette foi qui, dans le danger, parle encore au futur. Le futur, c'est un temps que les chrétiens doivent employer souvent. Il nous délivrera, futur. Vous savez, quand on croit au Christ, on n'y croit pas seulement que pour la terre, on ne croit pas seulement au Christ pour les quelques difficultés que nous avons, on croit au Christ parce qu'on croit qu'avec lui, nous serons toujours avec lui, ici, maintenant, là-haut, partout. Il nous délivrera. Nous sommes immortels. Nous avons de l'espérance. Les trois jeunes sont jetés dans la fournaise ardente. Ils sont liés, saucissonnés, avec leurs vêtements, leurs caleçons, leurs tuniques. Et le roi Nebuchadnezzar fait chauffer la fournaise 7 fois plus. C'est de la folie, 7 fois plus. Quelle chaleur pour montrer l'autorité là. Ils vont mourir, 3 jeunes. Il faut relever la tête toujours, toujours. Car Dieu est sur son trône. Dieu est toujours avec nous. Dieu ne change jamais. Dans les temps difficiles, relevez la tête. Ils sont précipités dans le feu. Il n'y a plus rien à espérer. Et voici que tout à coup, Nebuchadnezzar, Il est effrayé, il a peur. Une angoisse le saisit. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour qui ? Pas pour ces soldats qui, en s'approchant du feu, ont été dévorés par le feu. Il y avait tellement de feu que la chaleur les a suffoqués. Pas parce que trois jeunes vont mourir, il en a vu d'autres, il les passe après. Pas parce que c'est très chaud, non. Il est effrayé parce qu'il voit dans le feu quatre personnes qui marchent. Elles ne sont pas couchées, elles ne sont pas dans l'agonie, elles ne sont pas mortes. Elles marchent, elles vivent, elles continuent, elles avancent, elles sont pleines de vie. Quatre personnes au lieu de trois. Et le quatrième, vous pourrez lire l'histoire dans la Bible, c'est le Seigneur qui les accompagne. Le Seigneur les accompagne dans un endroit où on ne doit pas aller. Inaccessible, interdit, dans les situations les plus difficiles, là où la vie ne tient plus, là où on ne tient plus à rien, là où personne peut nous atteindre, nous rejoindre, le Seigneur est présent avec nous. Dieu dans la fournaise, le Seigneur là où aucun homme ne peut rentrer, sauver l'autre. Je pense à nos fournaises de souffrance, de deuil, de maladie, de solitude, des temps difficiles. Le Seigneur est avec nous. Il donne une promesse dans l'Apocalypse parce que l'Apocalypse annonce des temps difficiles pour la fin. Le monde n'est pas appelé à aller vers une amélioration, mais le Seigneur dit « Je te garderai à l'heure de l'épreuve, de la tentation qui va secouer, prouver le monde entier, je te garderai. » C'est beau. Mais pourquoi le Seigneur est-il rentré dans le feu ? Il aurait pu éteindre le feu. Il aurait pu être là sans apparaître, sans montrer son visage de gloire. Il apparaît dans le feu. À ce roi païen, épouvantable, dictateur. Mais il apparaît pour que l'on sache, dans toutes les générations, jusqu'à la fin des temps, que l'on sache que le Seigneur est réellement présent quand nous sommes pressés par le mal, pressés par le désespoir, abattus. Le Seigneur est réellement présent. Il est apparu pour que cela soit écrit définitivement dans les pages de la Bible et pour que jusqu'à la fin du monde et la fin de jusqu'au bout de la terre, les gens qui liront l'histoire puissent dire « Eh bien Seigneur, dans mon épreuve, tu es avec moi. » Le Seigneur est apparu pour que l'on sache ce qui se passe dans l'invisible. On ne voit rien. Et Jésus a dit « Ton Père est là dans le secret, dans ton cœur. » Et pour qu'on sache que dans l'invisible, quand parfois c'est très, très, très difficile, le Seigneur marche avec nous. Il nous fait marcher. On continue. On n'est pas bloqué. Ne craignez pas. Jésus qui veut dire « Dieu sauve », Jésus Emmanuel qui veut dire « Dieu avec nous », le Seigneur avec nous jusque dans la fin du monde, quand les hommes diront aux montagnes « Couvrez-nous, tombez sur nous, on ne peut plus vivre, on ne sait plus vivre, on ne sait plus aimer, on ne sait plus rien », eh bien le Seigneur est avec nous. Au fond de nos découragements, dans les familles où parfois ça devient impossible à vivre et à gérer, au fond de nos vallées de mort, dans les déserts de solitude, jusque devant le tribunal, devant le jugement dernier, le Seigneur est avec nous. Merci Seigneur. Dieu nous a ouvert les yeux sur cette présence invisible. Nous avons vu dans une crèche un enfant qui pleurait, enveloppé dans ses langes. C'était le Fils de Dieu. Nous avons vu un homme sur une croix qui mourait, couvert de crachats et couvert de sang, qui mourait par amour. C'était le Fils de Dieu. Nous avons vu avec les yeux du cœur un berger qui marchait avec nous dans les angoisses, dans les secrets de famille, dans les secrets du cœur, et qui nous disait, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Je suis là pour t'apaiser, te calmer, te rassurer. Ne promène pas des regards inquiets. Quelle histoire! Mais en fait, que sont devenus Michael, je vais le reprendre leur nom juif, que sont devenus Michael, Anania et Azaria? Ces trois hommes qui nous annoncent nos temps difficiles, qui nous annoncent les temps de la fin du monde. Aucune blessure. Leurs cheveux sont même pas brûlés, ni leurs vêtements. Ah si, une chose a brûlé. Leurs liens, leurs menottes. Comme pour dire, les œuvres du mal, tout cela disparaîtra. Tout ce qui nous a fait mal, tout ce qui nous a tristés, on laissera ça derrière nous. On ne gardera que les belles choses. Et le Seigneur a dit, les cheveux de votre tête sont comptés. Tout est enregistré dans le cœur de Dieu. Ils sont arrivés, ils sont sortis du feu indemnes, comme nous entrerons dans la gloire de Dieu avec toute notre vie derrière nous, la bonne vie derrière nous. Je voudrais que nous regardions ensemble dans la feuille que nous vous avons remise à l'entrée ce texte sur la page 3. Et nous allons terminer avec ce texte. Quel est le message du Seigneur à travers l'histoire des trois jeunes dans la fournaise? Quel est le message du Seigneur pour nous maintenant qui sommes certainement dans des temps difficiles? Mais, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Rome, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Quel est le message du Christ pour nous? On termine le carême maintenant. En ce qui nous concerne, dans nos temps difficiles où nous connaissons des angoisses, la faim du cœur, la nudité, un appauvrissement, Paul dit, déclare, affirme, les difficultés ne pourront jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Jamais. La profondeur de la souffrance, les forces du mal ne peuvent pas changer Dieu. Rien ne peut changer Dieu. Rien ne peut changer l'amour de Dieu. Selon cette petite lettre que je vous ai lue de Paul, il semblerait qu'il y ait des forces contre vous, contre chacun. Des forces qui n'ont pas des noms forcément méchants. Ils s'appellent vie, hauteur, présent, à venir, c'est des forces naturelles. Mais dans toutes ces forces, il y a un double visage. Elles donnent le bien, elles donnent le mal. Comme l'amour. L'amour peut construire, édifier la vie, le foyer, la maison. Mais l'amour aussi peut tuer, casser des familles. Diviser des couples, des enfants, quand l'amour prend des autres chemins. Comme le mot progrès. Le progrès peut construire jusqu'à oublier même Dieu. Mais le progrès peut détruire l'homme et le sens de la vie. Hauteur et profondeur sont des mots d'astronomie. Nous avons tous des hauteurs, des moments où ça va bien. C'est la réussite. On est en pleine vitalité jusqu'à en oublier Dieu. Nous avons tous des profondeurs quand la vie est en échec, quand on est licencié, en souffrance, quand on est en fin de vie. Et dans ces profondeurs, jusqu'à la révolte de Dieu, contre Dieu. Les choses présentes. Mais dans les choses présentes, il y a des belles choses. Il y a des joies, jusqu'à en oublier Dieu. Il y a des peines, jusqu'à ne plus regarder plus loin que nous-mêmes. Il y a un double danger en toutes choses. La vie et la mort. La vie peut fasciner jusqu'à en oublier Dieu. Elle peut angoisser. La mort peut fasciner ou angoisser. Toutes ces forces-là sont là avec nous chaque jour. La vie, la mort, le présent, les grandes choses, les petites choses. Tout ça, c'est avec nous. Mais dans tout cela, il y a des dangers. Partout, il y a du danger. Seul l'amour de Dieu que nous recevons en nous peut nous tenir au-dessus de ces dangers. Comme le Christ a tenu l'apôtre Pierre qui marchait sur les eaux en pleine tempête, en pleine nuit, tout seul, sur le lac de Tibériade. Comme Dieu a tenu les trois jeunes gens dans la fournaise. Comme le Seigneur a tenu Jaïrus à qui on avait dit « Ta fille est morte, ta fille est morte ». Et Jésus dit « Ne crains pas, crois seulement ». Si nous sommes attachés à Jésus, nous allons tenir. Si nous ne sommes pas attachés à Jésus, nous ne pourrons pas faire face à la vie, pas face à la mort. On n'est pas maître de rien. C'est un filet fatal. On ne peut, l'homme n'a pas de pouvoir dans ce combat. Nous ne ferons pas face à l'avenir angoissant. Nous ne ferons pas face au présent qui nous bouscule. Nous ne résisterons pas dans les profondeurs de l'existence. Nous ne résisterons pas quand la vie nous fera monter plus haut. Nous ne résisterons rien si la main du Christ n'est pas sur nos mains, si sa présence n'est pas dans notre cœur. Nous ne résisterons pas. Jésus disait, vous aurez des tribulations. Cela veut dire des troubles, des temps difficiles, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Ça veut dire, je suis plus fort que ces courants qui traversent votre maison, votre cœur. Je suis plus fort que tout. Je domine sur toute chose. Jésus nous donne l'assurance que rien ne pourra nous séparer de son amour. Alors la vie va mal, oui. Mais j'aime chanter le psaume 123. Je lève les yeux vers toi, Seigneur, qui siège dans le ciel. Comme le serviteur a les yeux fixés sur la main de son maître. Ainsi, nous regardons à toi jusqu'à ce que tu aies pitié de nous. Car nous sommes rassasiés de mépris. Ne craignez pas. Dieu s'est levé. On l'a vu dans tout le carême. Ne craignez pas devant la souffrance. Ne craignez pas devant la mort. Ne craignez pas face au mal. Je répète tout ce qu'on a vu dans ces 6 semaines. Ne craignez pas devant le mépris des autres. Ne craignez pas dans les temps difficiles. Car Dieu, qui n'a pas épargné son Fils, mais qu'il l'a donné pour nous, Dieu nous donnera toutes choses avec le Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dans les temps difficiles, ne craignez pas, relevez la tête. Amen. Je prie. Aide-nous à regarder plus haut que nous-mêmes, à regarder la source d'où nous venons, à regarder le Père qui, dans le ciel, regarde et surveille ses enfants. Aide-nous à prier, à t'accueillir chaque jour dans notre cœur, à écouter tes paroles qui sont vraies, certaines, véritables. Le monde tremble, mais ton royaume ne bouge pas. Nous voulons mettre notre ancrage, notre point d'ancrage dans l'amour invariable de Dieu. Garde-nous attachés à toi. Régénère notre esprit. Pardonne nos offenses. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.